pas des rétros, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
L'indice de masse corporelle, et ben en fait, c'est une indication qui sert à estimer la corpulence. C'est une relation entre le poids et la taille. On va pouvoir voir si on se trouve en sous-poids, en poids normal, en surpoids ou en obésité, et dans quel type d'obésité. Mais Mais par contre, il y a des petits défauts, parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais il y a quelques petits défauts, c'est que ça tient pas compte de l'âge, ni du sexe, ni du lieu où se trouve la masse graisseuse, si elle est viscérale, c'est-à-dire dans l'abdomen, ou qu'elle va dans les artères, ou bien si elle est périphérique, mais ça ne tient non plus pas compte de la composition corporelle, c'est-à-dire du pourcentage de graisse ou du pourcentage musculaire, parce que potentiellement on peut être en surpoids alors qu'en fait pas du tout. Par exemple, si on fait du sport, Simon baisse, diététicien, Simon nutrition a monté, calculons mon indice de masse corporelle pour que les gens comprennent bien.
Très bien, donc je vais avoir besoin de ton poids en kilos, s'il te plaît.
Alors, généralement, je suis plutôt autour des 79-80, mais là, je pense qu'on peut dire un bon 82 depuis Noël. 81-82, c'est... Prenons large, 82.
Donc, on prend ton poids, 82 kilos, et on va le diviser par la taille, ta taille au carré.
Donc, 179 centimètres.
Donc, 82 divisé par 1,79 au carré. Donc, c'est vraiment le 1,79 qu'on met au carré. Comme ça, les auditeurs peuvent le faire sur leur calculatrice, et ça te fait un IMC, un indice de masse corporelle, à 25,6. Donc tu es dans le tout début de la catégorie du surpoids.
Oh, arrête!
Et là, c'est un excellent exemple, parce que te voyant ici à la radio, je vois que tu as une bonne masse musculaire, tu m'as dit que tu étais sportif, tu allais faire des parcours vita.
J'ai été à l'époque, ouais, il y avait un temps, et là, depuis un peu plus d'une année, plus trop.
Ok, alors... Ce qui serait intéressant, ça serait de te faire justement une mesure de composition corporelle pour voir sur ce poids, on te classe théoriquement dans la catégorie du surpoids, tu en es où de ton pourcentage de muscle et ton pourcentage de graisse. Et ça serait un deuxième indicateur en plus de l'IMC pour pouvoir te conseiller au mieux. Est-ce que tu aurais intérêt à perdre quelques kilos, ou alors est-ce que tu fais partie de ces gens en surpoids mais en très bonne santé au final?
Donc en surpoids toujours par rapport à l'indice de masse corporelle?
Tout à fait.
Parce que, en tenant compte du reste, donc là, potentiellement, si on prenait en compte d'autres choses, je pourrais, redescendre un petit peu de la catégorie et puis me trouver dans la haute partie du poids normal, c'est ça?
Tout à fait. Si on se concentre uniquement sur le surpoids, on va dire que t'es un peu haut au niveau du poids. Tu aurais intérêt à perdre quelques kilos. Maintenant, on peut pas utiliser cet IMC de manière absolue comme ça pour poser un diagnostic. Il faudrait que tu viennes nous trouver en consultation, qu'on retrace l'histoire de ton poids. Qu'on te fasse une mesure de composition corporelle, qu'on regarde peut-être le dernier bilan sanguin que tu as fait chez ton médecin, où tu en étais avec ton taux de cholestérol, avec ta glycémie, avec les paramètres du foie.
Ah, de ce côté-là, c'était tout nickel.
Magnifique. Alors, si c'est uniquement le poids qui est un peu haut, on peut aussi partir du principe que c'est un surpoids qui ne pose aucun problème pour la santé. Parce que tu vois qu'à 1 kilo près, tu passerais dans la catégorie du poids, entre guillemets, normal.
À un kilo près, oui, parce que moi, il y avait un temps où j'avais mon chien qui était encore de ce monde, et puis il était encore assez svelte, donc j'allais beaucoup au parcours vita, et pendant que lui mâchait des bouts de bois, moi, je m'accrochais à la barre, je faisais des pompes, je courais un petit peu, je partais avec des poids en général, voilà. Et puis, j'étais plus ou moins, je pense, à 81, 82 kilos, donc ce serait à peu près la même chose, et en fait, là, j'aurais été en meilleure santé que maintenant.
Oui, c'est l'exemple qu'on donnait avant, t'étais plus lourd, mais sans doute en meilleure santé, parce que tu avais développé un peu de masse musculaire qui est précieuse et qu'on sous-estime très souvent. Et donc, c'est tout à fait possible que tu sois en meilleure santé à 81 kilos plus musclé qu'à 79 kilos.
Et pourquoi elle est précieuse, cette masse musculaire?
Elle est précieuse parce que, de par ton métier, de par le mien, tu te rends compte qu'on bouge très peu.
Oui.
Ça serait intéressant de tracer ton nombre de pas dans une journée, mais c'est au final...
Je suis plus à 10 000 depuis que j'ai commencé la radio, ça c'est sûr.
Et malheureusement, moi non plus. Et on a même porté des podomètres au cabinet, c'est quelque chose qu'on prête aux patients pour estimer leur nombre de pas, parce que tout le monde est persuadé de marcher suffisamment dans la journée, mais un métier sédentaire, on est des fois à 2, 3 000, 4 000 pas par jour à tout casser.
Et ça c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Là, on dévie un peu du sujet, mais les recommandations nous disent environ 10 000 pas par jour.
Ouais.
Plus, il faudrait rajouter environ 2h30 d'activité physique par semaine, en plus de ces 10 000 pas. Et là, on serait au minimum recommandé pour s'assurer une bonne santé. Et je sais pas toi, mais moi, j'en suis loin si je fais pas attention à ça.
Ah oui, non, mais alors moi, j'en suis totalement loin. Je vais garder ça dans un coin de ma tête quand même. Parce que, ces 10 000 pas et ces 2h30 d'activité physique par semaine en plus, finalement, vont complémenter cette masse musculaire qui est si précieuse.
elle est si précieuse parce qu'elle a besoin d'être entretenue. Donc elle est entretenue avec l'alimentation, un bon apport en protéines qu'on va répartir sur la journée. Elle est entretenue en bougeant. Et en plus, pour la première fois dans les recommandations, les dernières recommandations d'activité physique, la Confédération nous dit rajouter un peu d'entraînement avec de la résistance musculaire.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de la résistance musculaire ?
Alors, ça peut être de la musculation en salle de sport, mais ça peut très bien être du renforcement musculaire à la maison, avec des squats au poids du corps, un petit entraînement de gainage, ou exactement ce que tu allais faire au Parcours Vita, quelques tractions, voilà, se promener avec un petit peu de poids dans le sac. C'est vraiment soumettre son corps à un peu de contraintes pour qu'il se renforce, et avant tout pour entretenir ta masse musculaire.
Donc là, ce serait un peu l'inverse du cardio. On va essayer de tout donner pendant 40 secondes ou une minute. Là, sinon, ce serait plutôt dans une certaine longueur. La résistance musculaire, c'est ça.
C'est non pas l'opposé du cardio, mais le complément du cardio.
Le complément,
c'est-à-dire que tu vas entraîner ta pompe, oui, le cœur au niveau cardiovasculaire, et tu vas aussi entraîner tes muscles avec, par exemple, une série de 10 à 12 squats, rien que ça, ne serait-ce qu'au poids du corps. Et si tu optimises un peu le repas qui suit l'effort avec un bon apport en protéines, là tu nourris tes muscles et tu entretiens ta masse musculaire.
Donnons des petits conseils, parce que hier on a eu le professeur Dufour, que je crois en tout cas tu connais, on en a parlé hors micro tout à l'heure, qui parlait justement de ce foie gras. Qu'est-ce que tu peux nous parler, toi, dans ton expérience à toi, du foie gras qui touche quand même 25% de la population en Suisse?
Alors, il y a deux types de foie gras. Là, je ne veux pas parler à la place du professeur Dufour, mais pour ce qui concerne l'alimentation, on a des stéatoses hépatiques d'origine alcoolique, donc c'est-à-dire un foie gras dû à une trop grosse consommation d'alcool. Mais on a aussi aujourd'hui quelque chose qui explose, c'est les stéatoses hépatiques non alcooliques. Donc des gens qui vont développer un foie gras alors qu'il n'y a pas de consommation problématique d'alcool. Et on le voit même chez des adolescents ou des jeunes adultes. C'est principalement dû à la consommation de sucre ajouté, surtout de fructose industrielle. Le fructose, c'est le sucre des fruits qui ne pose aucun problème lorsqu'il est consommé à travers des fruits entiers, mais ce fructose, les industriels viennent aussi le cacher dans plein de préparations, que ce soit des boissons sucrées, des plats tout prêts, et ce fructose n'est pas digéré la même chose que le sucre que tu mets dans ton café ou sur tes fraises. Et celui-là pose beaucoup de problèmes.
Oui, alors ça, c'est hyper bien que ça fasse le lien. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner ? Des conseils tout simples ?
Un des conseils qu'on pourrait donner, c'est de ne pas tenir compte que de ce qu'on mange et des calories, mais aussi de la manière de manger. C'est ce qu'on appelle le comportement alimentaire, c'est quand la manière de manger est aussi importante, voire plus importante, que les calories qu'on met dans son assiette.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par la manière de manger ?
La manière de manger, ça va être la vitesse à laquelle tu vas manger ton repas.
Il faut manger lentement ?
Alors, il faudrait essayer d'arriver au moins à 15-20 minutes pour un repas. C'est le temps minimum pour que ton cerveau se rende compte qu'il a commencé à manger, que l'estomac s'est bien rempli et qu'il sécrète aussi des hormones de satiété. Et ça, c'est un deuxième point fondamental qu'on néglige souvent, c'est le respect de sa satiété. Ton stop, il va varier en fonction du sport que tu as fait, en fonction de l'énergie que tu as dépensée ou en fonction d'une soirée à carnaval où tu auras dansé toute la nuit sous la cantine.
Donc la satiété, il faut la respecter, il ne faut pas aller plus loin que ça.
Essayez d'éviter d'aller plus loin que la satiété, donc vraiment ce sentiment du ventre un peu trop tendu. Et on est toujours en alimentation sur la philosophie des petits pas, des petits changements qui, mis bout à bout, vont faire des énormes changements à la fin d'une semaine, d'un mois ou de 6 mois. Je te donne un exemple tout bête, tu manges normalement 3 fois par jour,
oui,
déjeuner, dîner, souper. Sur une semaine, ça fait 21 repas. Rajoute par là-dessus une fois un apéro, une fois un grignotage, on est facilement à 25 repas.
Ouais, il y a des chances, ouais. Hein?
Et 25 fois 4, ça fait que tu as en moyenne 100 prises alimentaires, 100 repas par mois. Et bien, si tu as 100 fois des petits changements, ça fait une énorme différence après 1, 2 ou 3 mois. Et c'est pas le repas de fête, c'est pas le repas où tu vas dépasser une fois ta satiété qui va ruiner tous tes efforts. C'est ces petits changements au quotidien et c'est ceux qu'on néglige souvent parce qu'on veut des solutions tout de suite.
Ouais, alors moi c'est clairement une mauvaise habitude que j'ai pris à Noël. Et puis bon, j'essaye justement de faire des petits changements. On va voir d'ici quelques temps si ça a une vraie, enfin, si ça a un résultat sur moi ou pas. Mais en tout cas, Simon Bess, merci infiniment. Maintenant, on en sait vachement plus, non seulement sur l'indice de masse corporelle, mais sur comment prendre soin de soi. Et puis finalement, on peut dire que ces petits changements, ben, ils sont petits, donc ils sont faciles à réaliser. Mais mis bout à bout, ça fait un sacré sacré morceau. Merci infiniment. Je rappelle que tu es diététicien à Simon Nutrition à Monté. Merci infiniment et excellente soirée.
Merci pour l'invitation.